Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Jacinthe, on parle d'Opération Pipi-Gazette 2.0 de François Legault à la rencontre avec Justin. Il a dit, j'ai dit à François un non dans le pouvoir en immigration. Ah, c'est assez spécial. Écoutez, je m'attendais à quelque chose d'assez similaire. Pas nécessairement, malgré qu'il y avait un mini-espoir avec les libéraux fédéraux dans le caniveau au niveau des sondages, mais semble-t-il qu'ils ont la tête dure, ces maudits-là. Ben écoute, on en parle aujourd'hui avec Jacinthe, puis également Breaking News. PSPP se rend compte que l'idée de faire un front commun pour aller à Ottawa, qu'Éric Duhem a proposé, ben c'est une bonne idée. Salut Jacinthe.
Salut.
Ouais, notre cher Justin refuse de donner les pleins pouvoirs en matière d'immigration au Québec. Fait que, écoute, j'ai suivi ça à moitié, vu que c'était la fin de la semaine, puis c'est ça, j'ai pris ça un peu plus relax, mais de ce que je peux comprendre, c'est ça, j'ai vu un peu quelques clips de Legault que... Personnellement, je comprends qu'il faut que tu joues la game politique, mais tu sais, je trouve tellement qu'il n'y a pas... Il n'est pas arrivé là, genre, OK, là, un peu comme un genre de boxeur avant un combat, là, tu sais, crinqué, let's go, on amène nos points, puis... On dirait qu'il est sorti de là, puis il était à la conférence de presse, puis je sais pas, j'ai pas senti de furie, j'ai pas senti de je sais pas, d'être en calvaire, quelque chose. Au moins, tu peux rester politiquement correct, mais tu le sens dans le ton que t'es en crise, je cherche le mot finalement, ou être vraiment déçu. Mais là, il y avait un ton de même, là, puis tu sais, j'ai parlé avec M. Trudeau, puis... J'ai l'impression qu'il savait déjà ce qu'elle allait se faire répondre, puis que c'était quasiment une opération de com' du début à la fin. En tout cas, c'est le feeling que j'ai senti d'un point de vue extérieur.
Oui, bien, il y avait probablement le ton d'un gars déçu, d'un homme déçu, puis c'est aussi ce que ça nous laisse comme goût. Nous aussi, on regarde ça, puis on est déçu. On se dit, voyons, la rencontre ne semble pas avoir apporté quoi que ce soit comme avancement dans une quelconque entente, à la fois en immigration, mais aussi en santé, parce qu'il y avait aussi la question des transferts fédéraux en santé qui aurait pu être discuté lors de cette rencontre-là. Donc, on a l'impression que finalement, il y a eu rencontre parce qu'ils devaient avoir rencontre, ils avaient dit qu'ils se rencontreraient, mais le résultat de ça, il n'y en a pas.
Il avait l'air déçu, mais pas surpris. C'est ça que j'ai l'impression. Puis, c'est ça. Tant que contrairement à Trudeau, même je dirais Trudeau est pareil, mais dans le sens que, tu sais, c'est pas les meilleurs acteurs de la planète, là. Mais même ça, j'ai pas senti. Tu sais, j'ai l'impression que même Legault, il a même pas essayé de vouloir jouer une game, de faire un peu de théâtre pour dire je suis vraiment déçu. Puis, tu sais, non, il a comme fait, en bon guillemets, je fuck it, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, on trouve ça plate, puis tout ça, mais regarde, on fera pas de parure puis de décor là-dessus. Là. C'est aussi simple que ça. Là. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de doute dans le sens que est-ce que c'était vraiment prévu du début à la fin puis c'était juste pour dire qu'on va avoir une rencontre pour avoir une rencontre pour pas que les oppositions nous blâment qu'on fait rien? Ou finalement... Parce que je sens pas, personnellement, je ne sentais pas le sérieux. Tu sais, que c'est décisif puis que un peu comme une genre de nuit des longs couteaux ou de rassemblement de la Constitution 82. Là, on est à la croisée des chemins puis... Non, j'ai l'impression que c'est encore une opération de com. Là. En tout cas, je comprends que c'est un refus officiel du gouvernement fédéral, mais il me semble le côté, je dirais pas prestige, mais le côté important, j'ai l'impression que ça n'a pas volé tant haut que ça. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, bien, il y a sûrement eu des discussions préalables entre d'autres instances avant que ces deux premiers ministres se parlent. Donc, si les autres discussions dans les autres instances, je pense par exemple au Bureau du Québec à Ottawa, qui sont censés faire des relations diplomatiques avec Ottawa, je pense aussi à Jean-François Roberge, qui est ministre responsable des relations avec le gouvernement du Canada. T'sais, si tous ces interlocuteurs-là qui devaient se parler au préalable ne sont pas arrivés à des grands résultats, effectivement, peut-être que... Peut-être que... Mais c'est quand même particulier parce que ça aurait pu avancer lors de cette rencontre-là, même si toutes les discussions menaient à des cul-de-sac, les discussions des autres instances, ça aurait pu avancer. Bon, puis là, on se donne rendez-vous au mois de juin. C'est étrange qu'on se redonne rendez-vous au mois de juin. Ouais, on n'arrive pas à aucune entente, mais on se donne rendez-vous au mois de juin. Mais pour parler de quoi? Pour régler quelles questions? Sur quel point spécifique? Il y a aussi beaucoup de flou autour de cette prochaine rencontre en juin. J'ai l'impression aussi qu'on se donne un prochain rendez-vous pour se donner bonne conscience ou pour bien faire paraître les choses ou pour donner l'illusion qu'il va y avoir des discussions, mais des discussions sur quoi précisément? Quels sont les... Oui, c'est ça. Moi, ça me laisse bien perplexe. Je trouve ça étrange et pas très rassurant pour les contribuables d'entendre qu'il y aura une prochaine rencontre en juin. On va travailler chacun de notre côté. C'est flou, hein? T'sais, on va continuer de travailler, on va continuer de discuter, on va continuer de faire avancer les choses, puis on se redonne rendez-vous en juin.
Ben c'est ça, parce que si au moins, je sais pas, je comprends que l'entièreté des pouvoirs en immigration, c'était la grosse demande, c'était le gros steak d'éléphant à bouffer d'une bouchée.
Ouais.
Là, on dirait que, bon, j'ai essayé toute la manger d'une shot, pas été capable, ben, on se revoit dans 6 mois, voir si elle a le temps de rapetisser. On se réessaye. Tu sais, ça fait un peu ça, un peu. Si au moins, tu dirais, regarde, il a refusé pour l'immigration, mais on a négocié certaines petites affaires ou certaines, je vais pas dire des grenailles, mais certaines petites réglementations, certains compromis là-dessus que ça va prendre en effet d'ici la fin de l'hiver, au moins un avancement de quelque chose. Au moins, tu dirais, ben regarde, au moins la prochaine réunion, ils vont continuer là-dessus. Puis c'est en faisant des petits pas que tu t'en fais des grands, avec des scènes que tu fais des pièces. Mais là, c'est ça, c'est que la grosse demande, on, t'sais, tu sais à quoi ça me fait penser, Jacinthe?
Quoi?
Les 10 commandements avec Charlton Heston, là, devant le pharaon, « Let my people go! » Là, ils disent, non, that's it, ça finit. And, c'est tellement... Je trouve tellement que c'est quasiment semi-caricatural un peu.
Ouais.
Je me demandais qu'il allait dire, tu sais, OK, go, tu sais, va, tu sais. Mais c'est pour ça que je trouve qu'on est resté sur notre fin parce que je pense que la grande majorité savait déjà qu'est-ce qu'il allait dire. Mm-hmm. Comme je l'ai dit au début, il y avait un minimum d'espoir, sachant que les libéraux sont tellement désespérés et sont dans le caniveau électoral que peut-être qu'il allait exclusivement, pour une fois, s'assouplir un peu ou d'ouvrir la voie vers peut-être une négociation ou de nouveau pour parler et puis tout ça. Mais non, je trouve tellement ça fait Moïse comme conclusion. Vous allez dire, Moïse, il a réussi finalement après un bout de temps, ouais, mais à date, dernière nouvelle, je sais pas, comme les 12 apocalypses puis les calamités, je pense pas que le gars a le bâton ni la magie pour faire ça. Fait qu'on sent, à moins qu'il peut sortir un lapin de son chapeau, là, on n'est pas encore rendu là, là.
Puis c'était une sacrée belle occasion pour les deux premiers ministres de faire bonne figure puis de démontrer qu'ils sont capables de faire avancer des dossiers puis de faire progresser des dossiers puis de travailler pour le Québec. Chacun de leur côté, même s'ils n'avaient pas la même vision des dossiers, que ce soit santé, là, je reviens sur les dossiers de santé ou les dossiers d'immigration, c'était une belle occasion pour eux d'aller chercher, de faire des gains au niveau de l'affection du public ou... Tu sais, Justin Trudeau a besoin de redorer son image au Québec. Il a raté une sacrée occasion de faire avancer des dossiers. Si c'était pas de dire oui à la grande demande là, de rapatrier tous les pouvoirs de l'immigration, il aurait pu dire en contrepartie, voici ce qu'on va faire. Tu sais, puis c'était une belle occasion de faire une annonce, mais il l'a pas saisi. François Legault aussi se retrouve perdant. Je trouve que ça... Ils ont eu rien à gagner de mettre cette stratégie-là, d'avoir une rencontre, la diffuser publiquement, puis de sortir publiquement en disant « ben on va juste revoir au mois de juin ». Wow, quelle occasion ratée sur le plan politique, sur le plan électoral, sur le plan de leur popularité puis de leur image. Ces deux-là, pour qui c'est si important, l'image, ils ont manqué une sacrée occasion. Mais là, parlant d'image, c'est pas juste une question d'image, mais il y a une question d'image puis une question de stratégie fort intéressante. Mais la fameuse réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon, aujourd'hui, de dire qu'il accepte la main tendue ou il accepte la suggestion ou il embrasse la suggestion.
Il y a une épiphanie, comme on dit.
Ben, il embrasse la suggestion du Parti conservateur du Québec et de Québec solidaire qui, les deux formations politiques, avaient proposé d'aller ensemble, tous les partis d'opposition, aller avec la coalition Avenir Québec à Ottawa. Donc, Québec solidaire qui avait proposé d'aller à Ottawa dans le dossier des transferts fédéraux en santé, puis Parti conservateur du Québec qui avait proposé d'aller à Ottawa pour en coalition des partis politiques québécois pour aller finalement demander plus de pouvoir en immigration puis de dénouer les impasses en immigration à Ottawa. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon qui saisit ces deux suggestions des deux partis puis qui dit oui, j'embrasse cette idée-là et allons-y à Ottawa, faisons front commun, on aura plus de pouvoir face à Ottawa. Je trouve ça fantastique, je trouve ça extraordinaire que des partis laissent un peu tomber leur garde militante pour faire du travail transpartisan.
Ouais, pour une forme d'avance, là.
Ben oui, puis il manque beaucoup de ça au Québec, puis du travail transpartisan. On l'a vu, c'est possible de le faire, on l'a vu dans le dossier de mourir avec dignité, qui est un dossier qui avait été mené de façon transpartisane, mais piloté, ou je dirais, là, où leadership avait été pris par Véronique Yvon du Parti québécois, députée de Joliette à ce moment-là, qui avait pris beaucoup de leadership dans ce dossier-là, mais qui l'avait mené avec ses collègues des autres formations politiques de manière transpartisane. Moi, c'est une initiative que j'avais beaucoup appréciée, puis je me disais, on devrait mener beaucoup plus de dossiers de cette façon-là. Et face à Ottawa, qui se bute complètement, se ferme complètement à toutes les demandes du Québec, et un Bloc québécois qui, ma foi, apporte aucun résultat en matière de résultats tangibles et concrets, d'avancées concrètes pour le Québec, bien, voilà une belle stratégie d'unir les forces des partis d'opposition et le parti au pouvoir du Québec, puis d'aller à Ottawa. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer, ce dossier-là. Mais tu montres à l'écran là, la fameuse lettre de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Je voulais juste le lire pour le bénéfice de nos auditeurs qui nous écoutent en audio. Donc, PSPP, c'est qu'il a fait ça ce matin. En fait, pour nous, c'est mardi, mais pour eux, ça va être mercredi. Il a écrit ceci. « Vendredi dernier, François Legault et la CAQ ont essuyé un refus catégorique de la part de Justin Trudeau dans le dossier du rapatriement des pleins pouvoirs en immigration après en avoir fait la demande. Récemment, le Parti québécois a été interpellé par le PCQ et QS avec l'idée de faire une visite transpartisane au Parlement canadien afin de mettre de la pression au soutien des demandes vitales pour le Québec. Ça fait 4 partis sur 5 qui croient qu'Ottawa agit inutilement et qu'il faut agir. Vu l'importance et l'urgence de la situation, j'appuie ces initiatives et je propose aux autres partis de nous rendre tous au Parlement canadien dans les plus brefs délais afin de réitérer ces deux demandes urgentes et importantes pour le Québec. Obtenir tous les pouvoirs en immigration et obtenir notre juste part en matière de transfert en santé. » Puis il y a mis également en lien le document officiel un peu qui résume tout ça. La bonne nouvelle, PSPP, enfin, tu as compris que l'idée d'Éric Duhem n'était pas folle. Il n'y a même pas quelques mois, dans un dit débat à Radio-Canada avec Patrice Roy, très bien. Ça avait l'air, il n'était pas trop, en tout cas, pour lui, c'était pas trop une si bonne idée que ça, mais finalement, écoute, regarde, on ne crachera pas sur le messager s'il voit finalement la lumière dans ce dossier-là, quand bien lui faire. C'est toujours. Mais en fait, qu'on se posait la question, toi, puis moi, Jacinthe, avant de commencer d'enregistrer, c'est qu'il dit 4 sur 5, mais personnellement, on a fouillé un peu avant. Les libéraux, du moins présentement, à l'heure qu'il est, pour nous dire, il est 15h27, ils n'ont pas encore réagi face à ça, les libéraux, le PLQ finalement, Marc Tanguay et compagnie. Mm-hmm. Du moins, ils semblent être plus étiqués sur le budget. Autant que c'est le parti, en guillemets, fédéraliste de la province, je pense que là-dessus, il y avait, en tout cas dans le passé, je ne pense pas qu'il avait été ici à ce point-là pour l'immigration massive. Fait que, selon moi, mon feeling, c'est qu'ils vont se rallier, sinon il y aurait, écoutez, eux autres aussi sont dans le fond de la cale. Fait que, il faut qu'ils gagnent des points à d'autres places. Puis je pense que refuser, ça lui tirerait trop dans le pied que de rien faire, finalement.
Mm-hmm. Mais tu sais, l'autre affaire, moi, je salue cette initiative-là de travailler de manière transpartisane puis de devenir plus fort ensemble en faisant une coalition des partis, de tous les partis à l'Assemblée nationale, puis d'aller vraiment, même le Parti conservateur du Québec qui n'est pas à l'Assemblée nationale, mais de faire front commun puis d'aller
bientôt
à Ottawa.
Oui.
Donc, je salue cette initiative-là. Ça ne veut pas dire que moi, je supporte l'idée qu'il faille rapatrier tous les pouvoirs en immigration au Québec. Je pense que quand on émigre dans un pays. Le Canada reste souverain de ses frontières, souverain de la citoyenneté qu'il accorde à des demandeurs de citoyenneté. Donc, je pense qu'en matière d'immigration, de donner plus de pouvoir à Québec, c'est discutable, mais il reste que le fond de la question, c'est de travailler en coalition, aller à Ottawa, puis aller chercher le maximum de gains. Donc, j'espère aussi que cette ouverture-là de la part des partis de l'Assemblée nationale du Québec, lorsqu'ils vont aller à Ottawa, de ne pas se buter simplement à la demande de « il faut rapatrier tous les pouvoirs à l'immigration », il y a certainement moyen de trouver une entente plus convenable qui n'implique pas nécessairement de s'approprier tous les pouvoirs en immigration. On est déjà une société distincte. On a déjà beaucoup de pouvoir en immigration par rapport à d'autres provinces. Donc, je peux comprendre aussi le premier ministre du Canada qui dit, là, attendez, là, je ne peux pas céder à cette demande-là. Mais il reste qu'il faut trouver des terrains d'entente, il faut trouver des solutions à certains enjeux, comme le fait que les demandeurs d'asile arrivent en plus grande proportion au Québec que dans le reste du Canada. Donc, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux aussi de capacité d'accueil qu'il faut résoudre. Ça ne passe pas nécessairement par absolument avoir tous les pouvoirs en immigration. Fait que là-dessus, je pense que les différents partis vont peut-être pas avoir la même ouverture face à des solutions alternatives. Par exemple, le Parti québécois qui veut absolument rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Mais espérons que cette coalition, ce front commun-là qui pourrait faire à Ottawa, va se faire dans une ouverture aussi de tout simplement aller chercher le maximum de gains. Même si les gains maximum ne sont pas nécessairement ceux qui sont souhaités.
Ouais. Ça va envoyer un message, puis autant que ça me surprendrait que s'il y a réellement un front commun, ça fasse pouette-pouette, puis qu'encore là, il n'y a rien. Par contre, je ne pense pas que les Québécois pourront dire qu'ils n'auront pas rien foutu dans ce dossier-là. Ils vont plus blâmer le fédéral là-dessus. Si je me mets dans la tête de Pierre Poilievre avec un nouveau gouverneur conservateur, je pense qu'il va vouloir prendre la balle au bon, bien évidemment. Surtout dans le fait que présentement, il chauffe les fesses du Bloc en calvaire dans la province de Québec. Là. Et même, je ne te donnerai pas de nom, mais j'ai des contacts au Bloc québécois qui ont eu leur conseil général à Québec en fin de semaine qu'ils savent pas mal qu'ils vont perdre des comtés. Là. C'est peut-être pas autant que ce que certains pensent, mais est-ce qu'ils vont. Ils savent qu'ils n'auront pas le même nombre de députés qu'ils ont présentement. Ils vont sûrement en avoir que moins au profit des conservateurs. Ça reste à voir de comment ils vont juger ça. Fait que je pense que c'est une opportunité pour Pierre Poilievre. Ça serait une opportunité aussi pour Trudeau de reprendre la balle au bon, malgré qu'il commence mal. Là. C'est comme. En fait, il aurait l'air un peu cave dans le principe qu'il aurait refusé au début, mais là, tout le monde est rendu chez lui. Puis, OK. Là. C'est un peu comme si tu. C'est un peu comme si t'es le gars que t'envoies, mettons, tu fais des commentaires, tu fais des menaces de mort à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Finalement, deux jours plus tard, quelqu'un est à ta porte. Là, c'est finalement, on n'est plus trop des menaces. Hein? Tu me dans la face, c'est pas pareil. Hein? Ben, si ça serait ça, il aurait l'air un peu chicken, personnellement.
Ouais,
là,
ouais.
Il s'est engagé sur une voie, puis il aurait l'air stupide, de son point de vue, de vouloir faire un 180 parce que là, tout d'un coup, ils sont pointés à Ottawa. Là. Parce que s'il ferait ça, ben, toutes les autres provinces vont faire pareil dans le dossier. L'Alberta va le faire, puis c'est un peu ça aussi. Mais là, encore là, c'est mon côté geek, encore une fois, de politique. Je trouvais ça plate que c'est pas arrivé, mais dans Justin Trudeau, je suis zéro surpris. On avait déjà parlé, mais j'aurais été curieux s'il aurait dit que j'accepterais que le Québec et 100% de ses pouvoirs en immigration, si seulement si vous accepteriez de signer la Constitution du Québec. Même si tu le fais pas, tu fais juste envoyer ça dans la place publique pour que les médias s'arrachent les cheveux là-dessus. J'aurais tellement eu du fun à regarder ça. Mais regarde, on vit pas dans ce monde-là. Là. Puis je vous dis pas nécessairement c'est ça que je veux, mais avouez qu'en termes de demande, ça fait pas. En termes de poids politique, je vous dirais que c'est comme pas mal ce qui équivaut le plus en termes de ça.
Ouais.
Parce que d'un côté, tu garantis la dite survivance du peuple québécois parce que pour arrêter de se noyer, comme dirait René Lévesque, puis de l'autre bord, ben, tu garantis au fédéral que plus jamais le Québec va chialer sur sa survivance de l'autre bord. Ouais. En tout cas, je vous parle purement politique, je ne vous parle pas d'opinion. Là, fait que, on n'est pas dans ce monde-là.
Ça aurait été un bon coup d'éclat que Trudeau aurait pu faire.
Gérald Filion en aurait parlé, ça c'est sûr.
Une autre posture qui est gênante, c'est la posture du Bloc québécois là-dedans. Parce que le Bloc québécois qui persiste à dire qu'il est là pour les Québécois, qu'il est là pour le Québec, qu'il supporte les idées des Québécois, qu'il représente les Québécois, qu'il est le mieux placé. C'est le parti, ça, selon le Bloc québécois, c'est le parti qui est mieux placé pour représenter les intérêts du Québec. Franchement, les relations entre le Québec et Ottawa n'ont jamais été si tendues. Ben, c'est pas vrai, je le sais, là. Je connais mon histoire du Canada, des relations tendues entre Québec et Ottawa, mais les relations sont... Oui.
En fin de semaine, excuse-moi de te couper, mais en fin de semaine, François Blanchet a quasiment envoyé des attaques à François Legault sans le nommer, en disant que, tu sais, ben, en parlant justement du refus qu'il y a eu de Trudeau, en disant « on le savait, tu sais, il joue sur l'autonomie, tout ça, puis ça sert à rien. Ben, » là, je paraphrase ici, mais tu sais, on le savait qu'il allait refuser. Il nous refuse toujours le Canada. Puis de ci, puis de ça. Puis... Non, à date, les fameuses relations entre le Bloc puis le gouvernement du Québec, c'est pas à l'eau de rose.
Là. Non, puis tu sais, de dire on le savait qu'il refuserait, puis c'est ça, ça devient une posture gênante à un moment donné. Comment tu peux faire partie d'une formation politique qui prétend défendre les intérêts du Québec si finalement tu n'arrives jamais à aucun résultat pour le Québec? Bon, je dis pas qu'ils n'ont pas fait. En tout cas, du moins, dans les dossiers contemporains qui nous concernent, donc les relations tendues en matière de transferts fédéraux en santé, notamment en immigration, il est où le Bloc québécois? Sont où les réalisations concrètes? Elle est où l'influence forte du Bloc québécois?
On va te le montrer. Il est où, gars? Donne-moi une petite seconde, je vais te trouver ça. J'avais montré ça hier aussi. Et là, là voilà. Je vais partager ça à l'instant. Et là, ton Bloc. Avec toutes les autres, sauf les conservateurs, par exemple. En termes de, c'est ça, de vote de parti, ou du moins de vote en Chambre des communes, le résultat montre que 4 des partis politiques canadiens votent de manière similaire, tandis qu'un parti, les conservateurs, est clairement distinct dans ses décisions de vote. Vous allez me dire, ah, mais c'est le seul qui est arriéré.
Non.
C'est pas aussi plus compliqué que ça, je vous dirais. Là. C'est... Non, c'est ça. Puis comme tu le dis, c'est... moi, ce qui me fait le plus frustré, c'est... Écoutez, j'écoutais un intervenant qui va à Choix une fois de temps en temps, je n'ai même pas son nom, ça ne vaut même pas la peine, tu sais, qui a fait un débat avec Jean-Christophe Ouellet sur la pertinence du Bloc québécois, puis les seuls arguments qu'il y avait, c'était uniquement, excusez-moi, mais des arguments de caribou, puis du symbolisme, puis tu sais, nous, on envoie des Québécois... nous, on a eu des députés québécois pour représenter le Québec à Ottawa, mais quand on a eu des conservateurs, on a élu des Canadiens pour présenter le Québec à Ottawa. Oh, la pièce de théâtre en habit d'époque du 17e siècle entre les rouges et les bleus, ça. Là, ça commence à faire vieux. Puis je vous dis pas que le fédéral n'est pas sainte ni touche, puis qu'il n'y a pas des enjeux reliés au Québec puis le gouvernement du Canada, c'est pas ça. Mais le vieux truc de symbolisme, puis de caribouttisme, puis de fleurs de lys. Il y a des limites à pousser ça. Parce que là, on est vraiment rendu dans l'ésotérisme à côté, puis les vraies réalités, comme tu le dis, l'économie, le coût de la vie, l'inflation, les logements, ça, on n'en parle pas. Aux trois quarts du temps, ils votent du bord des libéraux. Parce qu'on dit, « Ah, mais on défend le Québec! » Justement, l'exemple à matin, puis ça a fait flabbergaster Frank dans le podcast, il y a eu la méga motion qui a beaucoup fait brasser la Chambre des communes hier, la motion du NPD sur Gaza, puis la contre Israël, puis en tout cas, il y a eu des amendements reliés à cette motion-là, parce qu'au début, il disait demander un cessez-le-feu, puis tout ça, puis en même temps, il demandait aussi que le Canada arrête d'envoyer de l'armement, d'échange d'armement avec Israël, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils ont voulu faire des amendements, mais il y a un des amendements, il y a une partie des amendements que le Bloc n'a pas voulu voter pour, pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils avaient écrit juste en anglais. Oui, je le sais, il y a deux langues officielles au Canada. Je suis pas épais, mais...
On est dans les symboles. On est dans les symboles.
C'est rien que du Christi du symbolisme. À un moment donné, il a s'obstiner, faire l'offusquer pour l'offusquer. Ça n'amène à fuck all. Après ça, vous vous plaignez après que... Comment ça, les Canadiens nous aiment pas? D'après toi. c'est go figure, my friend. On va dire comme l'autre.
C'est un parti libéral bleu.
Ouais, ben je te dirais même plus social-démocrate progressiste bleu, avec une petite touche de socialiste nationaliste un peu à la Front National, un petit peu, là. Mais à part de ça, au niveau politique, c'est très, très, très à gauche. Sinon, une autre nouvelle que tu veux qu'on parle, peut-être rapidement, Jacinthe, ouais. Tu voulais qu'on parle du TGV. Puis ça, c'est un peu comme une... Un peu comme une genre de vieux fantôme. C'est comme le fantôme des Noëls passés. Là, il vient nous hanter une fois aux 10-20 ans. Puis on se demande si ce coup-là, il va venir pour de vrai. Et oui, article de ce matin, en fait, train à grande vitesse entre Québec et Toronto. La capitale nationale est incontournable, assure le PDG du projet. C'est... Écoute, je vais te dire comme je t'ai dit tantôt, avant qu'on enregistre, je vais y croire quand je vais le voir. C'est pas que l'idée n'est pas bonne, c'est je me dis avec l'état des finances de la province et du pays, puis on pense encore avec des grands projets comme ça, puis je vous dis pas que ce serait pas nécessaire. Moi, tout, j'aimerais ça faire Québec-Toronto en 3 heures, puis je serais le premier à m'en servir. Là. Mais évidemment, ça coûte pas un prix de fou. T'sais, je l'ai fait, j'étais en Italie, j'ai fait des TGV Rome-Florence en même pas 1 heure et demie, puis c'est extraordinaire. On a-tu les moyens? C'est juste ça que je me pose la question. T'sais, on est déjà endetté comme c'est pas possible. La dette du Canada a triplé depuis que Trudeau est au pouvoir, depuis 2015, puis là, on s'embarque avec l'argent public à faire un TGV.
Ouais.
Si ça serait comme un genre de coût 75% privé, 25 ou 20% public, tu dis « OK, ça prend un petit coup de pouce, mais au moins la grosse partie de la facture, c'est pas nous autres qui va la payer. » Mais encore là, j'ai l'impression que oui, c'est une demande. Oui, c'est important. Je vous dis pas que c'est une lubie. Mais je me dis, c'est-tu vraiment le meilleur moment de commencer à vouloir penser gros, là? T'sais, c'est comme si on dirait, je sais pas, on n'a plus de budget, puis je sais pas, on décide, on va faire le phare de Québec, OK? Puis c'est le public qui va financer ça, OK? Ouais, mais là, avec 11 milliards de déficit, tu trouves que c'est une bonne idée, toi? Ah, faut penser grand. Ouais, faut penser grand. Mais là, la réalité frappe à la porte, mon ami.
Ouais. Non, c'est sûr que si on regarde d'un point de vue du moment actuel puis de notre situation économique fédérale puis provinciale, c'est pas le bon moment pour en parler. Est-ce qu'on a la masse critique d'usagers, de population? Il y a plein de questions que ça soulève, mais il reste que moi, j'ai l'impression que dans toute cette histoire qui dure depuis des décennies de mirage d'un TGV au Québec, disons-le comme ça, parce que c'est un mirage qui dure depuis longtemps.
À un moment donné, on le voit, puis là, on le voit plus.
Oui, mais il me semble qu'on n'a jamais été aussi concrètement dans... on n'a jamais été aussi concret, là, tu sais, parce qu'il reste que le gouvernement fédéral a demandé à Via Rail de mettre sur pied un bureau, de mettre sur pied une entité qui s'appelle Via TGF, bon, TGF pour train à grande fréquence. Donc, ça existe, il y a un conseil d'administration, il y a un PDG qui est à la tête de Via TGF.
Encore plus de fonctionnaires, Jacinthe, c'est le fun, le monde a des jobs payants, c'est le fun.
Bien, c'est ça. Puis le PDG de Via TGF, qui s'appelle Martin Imbeau, a commencé à faire une tournée du Québec pour présenter ce projet-là. Donc, il y a un conseil d'administration, il y a un PDG, il y a une structure et il y a une tournée qui est en cours présentement. Il y a un mois, Martin Imbeau était devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour faire la présentation du projet. Ce midi, donc, vous avez le podcast mercredi, donc mardi midi, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec organisait un dîner économique avec, pour inviter Martin Imbeau de Via TGF, qui venait présenter aussi son projet à la communauté des gens d'affaires de Québec. Donc, j'étais là ce midi à cette présentation de Martin Imbeau, qui était devant une assistance là, de... Je dirais une salle d'une centaine de personnes. Jonathan Julien, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, était là. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports. Qui était là aussi. On avait le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, donc le directeur de cabinet de Pierre Fitzgibbon, qui était là. On avait le maire de Québec, Bruno Marchand, qui était là. Communauté d'affaires avec des représentants des 3 consortiums qui ont déposé ou qui vont déposer, je m'excuse, ils vont déposer les prochaines semaines des projets. Je dis des projets parce qu'il y a 3 consortiums qui vont déposer des projets, soit simplement de TGF, donc train à grande fréquence, soit des projets de TGV, train à grande vitesse, qui vont aussi avoir une grande fréquence. Bref, dans cette présentation-là, on mélange à la fois la grande fréquence et la grande vitesse. Le gouvernement fédéral ne voulait pas aller au départ vers un train à grande vitesse parce que ça coûterait plus cher, beaucoup plus cher. Ça implique d'avoir une voie ferrée construite de façon beaucoup plus solide pour accueillir de la grande vitesse. Une voie dédiée, mais très, très solide aussi. Donc, ça coûte plus cher au niveau de la voie ferrée, puis au niveau de l'équipement aussi. Mais il reste que, de plus en plus, avec le temps qui passe, il semblerait que le fédéral est plus ouvert à un TGV. Et là, ben, c'est une espèce de campagne de séduction qui est en cours pour, remousser cette idée-là auprès des communautés d'affaires, l'idée de pouvoir faire Québec-Toronto, parce que dans le fond, c'est un train qui ferait, pour ceux qui ne sont pas au courant du projet, là, qui est en cours actuellement. Puis, comme je vous dis, peut-être que c'est juste encore une fois un mirage, mais ça semble être un mirage qui commence à s'organiser puis qui commence à drôlement bien se structurer. Donc, ce qu'on vise, c'est un train qui parte de Québec, qui fasse un arrêt à Trois-Rivières, Montréal-Ottawa et Ottawa-Toronto. Et là, ben, il y a différents scénarios qui nous sont proposés à 150 km/h, à 200 km/h, donc des vitesses variables parce que bien sûr, si on arrête à Trois-Rivières, on ne peut pas faire Québec-Montréal à 300 km/h parce qu'il y a un arrêt entre les deux. Donc, on fait des comparaisons avec certains TGV de l'Europe dans cette présentation-là.
Ils ne sont pas capables d'accélérer, je ne comprends pas.
Parce que le temps, c'est parce que si tu fais, mettons, Québec-Montréal, ça te permet d'accéder à des plus grandes vitesses que si tu prévois un arrêt à Trois-Rivières. En mettant un arrêt à Trois-Rivières, puis ça a été déterminé qu'il y aurait un arrêt à Trois-Rivières, ça implique que tu peux pas atteindre, mettons, 250 ou 300 km/h parce que le temps d'accélérer, c'est déjà le temps de décélérer vers l'arrêt à Trois-Rivières. Alors que si on, admettons qu'on aurait choisi de ne pas mettre d'arrêt à Trois-Rivières, ça nous permettrait d'atteindre les plus grandes vitesses entre Québec et Montréal parce que tu n'as pas un arrêt à prévoir, donc une décélération et une réaccélération. Donc, il y a différents scénarios qui ont été étudiés, puis les trois consortiums vont présenter des projets de TGF, TGV à plus ou moins 150-200 km/h avec des contraintes
moins,
là, d'arrêt.
Au moins 200, là, parce que c'est, si mettre juste ça 150, l'attrait de vouloir le prendre, je te dirais que gaz est 30. Je le dis, là, je roule à 119, ça à 20. Cruise control. Pas plus que ça. Là. C'est 30 km de plus. C'est ça. C'est peu, je comprends que contrairement à Via Rail, c'est un méchant boost, là, mais là.
Non, c'est ça. Exactement.
Il faut que tu amènes quand même de l'attrait que, justement, ça va prendre beaucoup moins de temps, la différence. T'sais, moi, je me rappelle, là, la fameuse. Les vieilles pubs de TGV puis de trucs sur rail qui parlaient à l'époque, qui parlaient de Québec-Montréal en une demi-heure, puis des affaires comme ça. Fait que, tu sais, faut voir ça grand. Puis c'est ça, le gros avantage de cette infrastructure-là, parce que s'il faut en faire une, il faut au moins en faire une qui dure sur le temps, puis qui est justement le fameux, les deux attraits, soit le coût réduit, soit la vitesse de déplacement.
Mais je suis contente de t'entendre dire ça parce que on en a parlé quelques minutes avant d'entrer en onde, puis. Tu te disais, puis tu l'as encore dit en introduction, là, tu sais, c'est pas le moment de faire des investissements comme ça, mais moi, je suis de cet avis-là aussi. Si on est pour faire des investissements, investissons dans quelque chose qui est réellement profitable, qui apporte une réelle valeur ajoutée dans le quotidien des gens, qui va être réellement attractif puis qui va être réellement moderne. Parce que, hey, on parle d'un projet là, qui va s'effectuer sur des décennies. C'est le même qui est présenté, là, des décennies. Donc, si t'es pour me faire un projet qui va être pleinement concrétisé dans des décennies, viens pas me présenter un 150 km/h de moyenne de vitesse, là. Parce qu'ailleurs, dans le monde, il y a des maglèves qui sont à 600 km/h, là. C'est là qu'elle est rendue, la technologie. Donc, m'arriver en... Puis, donc, c'est ça, la vitesse moyenne des options étudiées en ce moment varie entre 155 et 180 km/h. Et là, ça dit, c'est aussi rapide que certains TGV européens. Ouais, certains. C'est aussi rapide que certains TGV européens bâtis dans les années 70. Là, on est-tu encore en train de travailler fort pour des technologies du passé? C'est ça, parce que lithium, batterie au lithium. Je peux pas faire autrement.
Donc, parce c'est que ça. Là, en Europe, on joue en 250-300 d'habitude, là, dans ces eaux-là environ. Oui. Tu as absolument raison. C'est plate qu'on en vit dans une époque qu'il faut quasiment poser la question que... Avant, c'était de soi. On crée, on a un projet, on crée une infrastructure justement pour que ça dure dans le temps, puis on le fait dans le but d'améliorer la vie des citoyens et de ceux qui vont l'utiliser. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, non, c'est pas toujours ça. Semble-t-il qu'aujourd'hui, on le fait plus par signalement de vertu, puis le fait que c'est dans l'air du temps, ou parce qu'il y a des subventions et de l'argent débloqué au fédéral pour ça.
Ouais,
même,
c'est ça.
Même si on n'a pas de besoin.
Ouais.
Fait que, non, absolument. Là, surtout qu'un projet de même, t'as pas... Faut absolument pas, comme dirait mon père, chier dans la pelle avant de commencer tout ça, puis qu'on se ramasse avec une infrastructure qui aura pris des décennies. Qui, oh oui! J'assume que les chaque constructeur et travailleur de la construction vont faire beaucoup d'argent sur ce projet-là, mais qu'en bout de ligne, le résultat final va quand même fonctionner. Et aussi qu'il fonctionne en climat hivernal. Parce que là, on le voit avec le REM encore. C'est avance, recule, un petit peu de neige, on l'arrête plus. Puis là, le REM, sa réputation, ça fait même pas un quoi. Même pas 6 mois qu'il est en fonction. Sa réputation est just crap.
Mm-hmm.
Fait que, votre TGV, il est mieux de déglacer ou d'avoir une pointe de déneigeur dessus pour enlever la neige à vitesse qui roule, parce que c'est ça, là, ça sera pas comme en Europe où c'est que de la petite neige ou 2 petits pieds de neige comme ça sur les rails. Là. C'est pas pareil. Là.
Ouais, puis une chose qui est préoccupante dans la présentation que j'ai vue aujourd'hui, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de budget non plus. C'est sûr que les consortiums n'ont pas encore déposé leurs propositions. Donc, avec ces propositions-là qui vont être déposées, on va avoir peut-être une meilleure idée des coûts que ça va engendrer. Mais ce qui est visé, c'est d'avoir une voie ferrée exclusive au transport de passagers, donc qui ne va pas comporter les désagréments qu'on a actuellement avec Via Rail, parce que Via Rail emprunte les voies ferrées de Canadien National. Donc, on est tributaire des trains de marchandises lorsqu'on transporte des passagers. Là, il n'y aurait plus cette problématique-là, ces enjeux-là. Mais il reste que je trouve que pour le moment, on vise encore de façon trop modeste des vitesses qu'on dit grandes vitesses, qu'on ose appeler TGV. Mais quand on est dans l'ordre de 155 à 180 de vitesse, ce n'est pas nécessairement comparable aux trains les plus modernes. Oui, c'est comparable à certains TGV européens, mais des TGV, comme je dis, qui ont été mis là dans les années 70-80. Puis, il y a un article dans la presse qui a été rédigé suite à cette présentation-là. Il y a un mois, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, il y a des articles là, qui vont sortir aussi cette semaine parce que la présentation a été faite à Québec. Mais dans cet article-là de la presse, on dit que la vitesse moyenne du train entre Montréal et Québec actuellement avec Via Rail, la vitesse moyenne est de 83 km/h. C'est pas du tout compétitif par rapport à l'automobile.
Et c'est pourquoi je n'ai jamais pris le train de ma vie, du moins au Québec. C'est la seule fois que j'ai pris le train, c'était le TGV quand j'étais en Italie. C'était du 300.
Puis Montréal-Toronto, en ce moment, la vitesse moyenne est à 106 km/h. Montréal-Toronto, ben oui. Mais là, après ça, ils nous parlent du train New York-Washington, c'est 130 km/h. Après ça, on monte là... Paris-Londres, on est à 199 km/h. Tokyo-Kyoto, 227 km/h. Paris-Marseille, 234. Puis Barcelone-Madrid, on est à 249 km/h.
Mais j'aimerais tellement donc, ça qu'on ait un... Là, je comprends qu'on parle d'un méga, méga projet, là, mais qu'un jour, on ait un genre de système vraiment rapide, là, mm-hmm. de, mettons, Vancouver-Montréal. Vancouver-Québec, aussi. Mettons. Là. Tu sais, vraiment, je sais pas, mettons, Québec-Vancouver en 15 heures ou en 12 heures.
Mm-hmm.
Tabarouette, c'est quelque chose, là.
Ouais.
Tu traverses le continent au grand complet, à coût de 200-300 km, même des fois plus long que ça, puis
ouais.
Let's go. Tu dis, tu es à Québec, tu dis, en fait, tu pars le vendredi, mettons, matin, tu dis, en fin de ça, je passe le week-end à Vancouver, puis je reviens. Tabarouette, tu sais, c'est tellement, ça ouvre tellement les horizons, mais c'est ça, tu sais, faut savoir voir grand, et je comprends que là, on parle d'un projet extraordinaire, là, tu sais, c'est beaucoup de territoire à défricher, puis à mettre ça sur pied, mais... Je pense que ça ouvrirait également le Québec sur le reste du Canada, que trop souvent, on a le fameux dôme, justement, qu'on parle souvent, ça, je pense que ça le casserait un petit peu plus s'il y aurait ce type de projet-là qui arriverait. Parce
ouais.
que oui, Toronto, c'est Toronto, là. Mais comme dirait bien beaucoup de gens, Toronto, c'est pas le Canada non plus. Ça en fait partie, là, mais c'est pas le big picture, comme dirait l'autre, là.
Non, mais tu as raison. On vivra probablement pas ça dans notre vivant, mais non. Avoir un TGV aussi qui va dans l'Ouest canadien, ça serait vraiment profitable. Mais on n'a pas la masse critique de population comparable à l'Europe. Je vais dire ça comme ça.
On n'est pas condensé, c'est ça l'affaire.
Oui, exactement. Juste la France, sont 68 millions de personnes juste en France. Alors que, tu sais, je regardais là, les dernières données sur la population de l'Ontario puis du Québec. Au Québec, on est à 9 millions. L'Ontario est à 16 millions. Donc, même en combinant Québec et Ontario, 16 millions, 9 millions, on n'atteint pas encore, même pas quelque chose d'équivalent à la France. Donc, c'est sûr que... C'est sûr qu'après ça, on peut regarder les technologies qui se font ailleurs puis les envier. Puis je suis la première à militer pour des trains très rapides, là, beaucoup plus rapides que 150 km/h. Moi, je pense que tant qu'à investir, on doit investir pour le futur. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça pose quand même l'enjeu de la population puis la répartition de ces dettes-là sur le nombre d'habitants. Ça devient un fardeau immense pour les contribuables comparativement à ce qui s'est fait en France, d'autant plus que, en France ou en, je veux dire, n'importe quel pays d'Europe, d'autant plus que là-bas, en plus, c'est des infrastructures qui ont été faites dans les bonnes années, ils ont été faites il y a longtemps, alors qu'ici, on est tellement en retard au niveau technologique et au niveau de nos infrastructures des transports que la question se pose toujours... Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Mais bref, Martin Hibault continue de faire ses tournées des gens d'affaires. Une salle quand même remplie de gens d'affaires, de politiciens qui étaient attentifs, mais dubitatifs, je dirais. Donc, on voit que les gens, ça fait longtemps qu'ils en entendent parler, ça fait longtemps qu'ils en rêvent et tout le monde est très conscient de notre situation économique. Donc, on sent que les gens aussi sont à l'écoute, se disent « c'est bien beau, mais comment on va y arriver? Est-ce qu'on va vraiment être capable de faire quelque chose d'extraordinaire? Est-ce qu'on va avoir les moyens de ça? Est-ce que ça vaut la peine? » Bon, puis voilà, je trouvais ça quand même... moi, ça m'emballait beaucoup ce projet-là il y a un an, quand le fédéral a annoncé qu'il mettait sur pied le bureau de VIA TGF. Je me disais, voyons, TGF, on ne veut pas juste de la grande fréquence, on veut de la grande vitesse. Donc, ça m'a emballé quand j'ai vu que Martin Hibault, le PDG, puis même le conseil d'administration se montrait de plus en plus ouvert au fil des mois à dire, bien, il faudrait aussi regarder de la vitesse, il faut aussi regarder la vitesse. Mais c'est comme si là, pour l'instant, on vise une espèce de compromis entre la fréquence et la vitesse. On va se donner de la grande vitesse, mais ce n'est pas de la très grande vitesse. En ce moment, les objectifs qui sont visés dans l'économie de temps par rapport dans les gains dans les gains de temps par rapport à l'automobile, on vise à peu près 30 % de gains de temps. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment viser un 50, 60 % de gains de temps comme en Europe, justement. C'est ce qui fait que les gens prennent le train, c'est qu'il y a un réel gros gain de temps de 50 à 60 %. Un 30 %, ben, ça va convaincre certaines personnes, mais pas la majorité nécessairement.
Absolument. Puis, si vous voulez me faire sortir de mon char, il va falloir avoir des arguments de poids. Ah non, puis c'est drôle, le truc, le débat avec grande vitesse, grande fréquence, ça me fait penser dans le temps que je travaille dans les télécommunications, puis... Vous, c'est-tu de la fibre optique? Ouais, c'est de la fibre, mais pas optique. Puis c'est des câbles renforcés en cuivre. Fait qu'il y a de la vitesse, mais c'est pas comme Bell. Puis tu sais, ça me fait rien que penser à ça. Mais c'est ça, absolument, regarde. S'il faut y aller all-in, ben qu'on y aille avec ce qu'il y a de best pour le moment. Puis que, justement, rendu que quand on va terminer de mettre la dernière rail, ouais. Tu ne vas plus déjà passer la date depuis 20 ans. Fait que, exactement. Écoute, Jacinthe, thank you. Merci beaucoup encore cette semaine. Bien, super intéressant. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine.
Yes. Bye, à la semaine prochaine.